Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la radio d'Île-de-France en Val-d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+, pour toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Sabrina La Technique. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Transition énergétique, véhicules propres, accessibilité, maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Aujourd'hui, mardi 11 juin, dans l'économie en direct, on vous fait revivre la journée du 6 juin 2024 à Saint-Ouen-l'Aumône lors du salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, première organisation patronale du bâtiment.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct et ce matin 6 juin, c'est en plateau mobile que nous sommes allés sur le site de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France à la rencontre de leurs responsables pour la 4e édition de ce salon professionnel consacré donc à la transition énergétique, au développement durable et à l'accessibilité. Moment d'échange au cours desquels nous allons donner la parole à des institutionnels, à des exposants, au président de la CAPEB, au président de la CAPEB du Val-d'Oise. Bref, beaucoup d'échanges puisque ce salon offre aux entreprises artisanales du bâtiment l'opportunité de rencontrer leurs partenaires industriels et institutionnels. Autant dire des moments riches pour ces métiers du bâtiment, un secteur artisanal dynamique et agile. Avant d'accueillir nos premiers invités, on fait une pause avec Christophe Mahé. À tout de suite.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Le bonheur, il est là, il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur? Il est où? est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Retour sur le site de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France pour sa 4e édition du Salon professionnel à Saint-Ouen-l'Aumône où avec Sabrina, coordinatrice d'antenne, nous sommes accueillis par Thierry Leroux. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Donc vous êtes président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, chef d'entreprise, une entreprise familiale dans la plomberie chauffage installée à Saint-Ouen-l'Aumône. Dans le 78. Merci de nous accueillir sur le site de la CAPEB. Et à vos côtés, Benjamin Schkroun. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Conseiller régional, vice-président de la commission économique. Alors, la CAPEB, rappelons-le, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment qui dénombre plusieurs entreprises, hein, j'en ai compté 634 871 exactement. Je ne sais pas si ce chiffre est toujours d'actualité. Thierry Leroux.
Alors 634 000, c'est effectivement, ce sont les entreprises relevant du bâtiment.
D'accord.
Pour la CAPEB, nationalement, c'est 62 000 entreprises.
D'accord.
Ce qui fait de nous la première organisation patronale de France en nombre d'adhérents.
Très
devant,
bien.
Devant toutes les autres, tous métiers confondus. La CAPEB est la première organisation patronale de France.
C'est ça. Alors, donc, quelques mots sur cette 4e édition de ce salon professionnel. Une 4e édition, ça veut dire que ça devient incontournable.
Bah, tout à fait. Maintenant, voilà, on a pris ce rythme annuel, même s'il a été un peu interrompu en 2020 pour les raisons que tout le monde connaît. Maintenant, voilà, nous renouvelons tous les ans cette manifestation qui réunit nos partenaires avec
oui.
qui on travaille à l'année, pour qui on fait la communication et qui nous rendent service à nous et à nos adhérents surtout. Et effectivement, pour nos adhérents, c'est l'occasion de venir rencontrer, un, ses partenaires, deux, nos services aussi. Donc c'est une manifestation qu'on renouvellera maintenant,
oui,
effectivement.
Qui maintenant a du succès et qui est apprécié et qui permet aux entreprises de s'informer sur différentes thématiques en un seul lieu et sur une journée, notamment avec la présence aujourd'hui de 23 exposants, j'ai pu lire.
Oui, tout à fait.
Absolument.
Les exposants reviennent d'une année sur l'autre, montrent leur satisfaction à participer à ce salon et reviennent donc systématiquement.
Alors, c'est l'occasion aussi de recevoir des élus et des institutionnels. Avec nous, Benjamin Schkroun. Bonjour, Benjamin. Rebonjour. Vous, en tant que conseiller régional, ce genre de manifestation est importante.
Ben, c'est important pour l'écosystème autour du bâtiment, le fait de se rencontrer, de valoriser son travail, son métier. C'est aussi important dans un secteur où il y a des difficultés de recrutement. On sait que c'est un secteur porteur, mais qui est souvent heurté aux problèmes de ressources humaines.
Oui.
Et la région a mis en place des dispositifs d'aide pour les formations dans le bâtiment. Hein. Il y a plus de 5 000 jeunes qui ont bénéficié d'une formation sur les métiers du bâtiment. C'est plus de 20%.
Oui.
Donc on voit que ce qu'on a mis en place avec les primes à la formation qu'on a mis en place est marche, et ça c'est satisfaisant. Et puis la région, c'est aussi un opérateur qui fait un schéma directeur d'aménagement du territoire avec le SDRIFE qui sera voté en juillet à la région. Et ce SDRIFE aussi est particulier puisqu'il il va rééquilibrer les polarités de la région en termes d'aménagement du territoire, donc construction. Et on compte aussi que ce fait qu'on élargisse ces polarités permettent aussi aux entreprises locales, dans le cadre de projets locaux, puissent bénéficier de nouveaux marchés.
C'est ça.
Et dernier point aussi qui est important, dans le cadre de nos aides aux collectivités avec les CAR, les contrats d'aménagement régionaux, je vois quand j'inaugure beaucoup d'entreprises locales qui peuvent bénéficier de rénovation d'écoles, de rénovation d'équipements publics. Et ça, c'est aussi important qu'à travers les subventions qu'on alloue aux collectivités, ce soit les entreprises locales qui puissent en bénéficier à travers les marchés.
Oui, je crois que la région était très, très partie prenante hein, dans toute cette politique de rénovation.
Très partie prenante. Et puis, on a quand même un plan d'investissement excessivement important. Hein. C'est le troisième plan d'investissement en France. de 6,6 milliards d'euros jusqu'en 2028, hein, qui comprend les lycées, plus 50 lycées construits ou qui vont être construits. Et donc là, dans les, lotissement des marchés, on a aussi des entreprises locales qui peuvent en bénéficier.
D'autant que ce salon, hein, professionnel, vous me corrigez si je me trompe, Monsieur Leroux, est axé sur la transition énergétique, le développement durable et l'accessibilité. Donc peut-être aussi des domaines, Monsieur Schkoun pourra le confirmer aussi, sur lequel Monsieur Leroux, vous tenez des domaines auxquels vous tenez beaucoup.
Oui, tout à fait. C'est deux sujets de la rénovation énergétique qui est complètement dans l'air du temps et qui va mobiliser énormément de compétences et beaucoup d'entreprises. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, même si, évidemment, il ne concerne pas tous les corps d'État du bâtiment, mais quand même un certain nombre sont concernés par ce sujet. Donc c'est un sujet qui est vraiment d'avenir.
Oui,
quoi.
Bien sûr.
Et puis, l'adaptation à la mobilité, à la perte de mobilité aussi, que ce soit pour les personnes victimes d'accidents de la vie ou nos anciens qui effectivement, vivent de plus en plus vieux, mais qu'on essaye de maintenir chez eux le plus longtemps possible pour des raisons de coût et de confort. Et donc, l'adaptabilité est vraiment un sujet prégnant à la CAPEB depuis déjà plusieurs années.
Depuis plusieurs années, et dont vous
avec
allez...
des labels, Indibat, Silverbat, des formations des entreprises pour bien prendre en compte la perte de mobilité. Chaque client est différent, n'a pas les mêmes problèmes. Et donc, on forme nos artisans à ce qu'ils soient au plus près de la compréhension de ce handicap.
C'est ça, autant d'atouts pour que vos artisans puissent gagner encore des parts de marché. Parce que le but, c'est quand même ça.
Gagner des parts de marché et que les travaux soient satisfaisants.
Oui,
c'est ça. On voit trop souvent des travaux qui ont été faits dans le cadre de l'adaptation et qui ne sont pas satisfaisants. Parce que l'entreprise n'a pas été à l'écoute. Elle a fait comme elle fait d'habitude. Sans tenir compte que quelques centimètres de marche, pour un valide, c'est sans problème. Pour quelqu'un qui a des soucis, ça peut vite devenir un problème. Donc c'est pour nous important de bien mettre le doigt sur le respect des ergothérapeutes et des consignes qui nous sont données dans ce cadre.
Oui, hier, j'avais une émission aussi justement sur qui parlait de la maladie de Charcot, où les ergothérapeutes sont très importants. Donc, vous rejoignez un petit peu ce que nous disions hier avec ces invités.
Oui, tout à fait. On n'est pas médecin, on n'est pas formé à ça, donc on a besoin d'avoir l'expertise
complètement
des ergothérapeutes.
Benjamin Schkoun, la transition énergétique, c'est aussi les véhicules propres. Et puis, comme l'a dit Monsieur Leroux, cette accessibilité et maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, c'est aussi un sujet de la région.
C'est un sujet de la région. On a mis un dispositif d'aide pour accompagner les TPE et les PME dans l'achat de véhicules propres qui fonctionne très bien, j'allais dire trop bien, donc c'est-à-dire qui répond à une vraie demande. Et puis en termes de rénovation énergétique, on aide aussi les collectivités jusqu'à 500 000 euros pour les accompagner dans les travaux de rénovation thermique de bâtiments publics. On parle beaucoup de logements, mais le patrimoine des collectivités et de l'État est un vrai sujet de rénovation thermique.
Aussi, oui.
On parle des écoles, c'est quand même un sujet au niveau local qui est assez important. Donc c'est vrai qu'on a mis une aide de 500 000 euros qui est assez importante pour les collectivités. Puis aussi, il y a la construction de logements. L'État a annoncé qu'il fallait qu'on construise en Ile-de-France 70 000 logements par an. Cette année, en 2023, on sera à 60 000. On a fait plus 15%, ce qui est un effort assez considérable. La région Île-de-France, c'est 2% du territoire pour 20% de la population.
Oui, d'accord.
C'est toujours ce qu'on se dit, et 30% du PIB. Donc la construction de logements est un élément clé dans l'aménagement du territoire. Et ce que je disais tout à l'heure sur le ZRIFE, le rééquilibrage aussi de cette construction de logements est un élément clé. Notre département du Val-d'Oise fait partie des départements qui va tirer la démographie de la région Île-de-France. Les trois départements de Grande Couronne vont à eux seuls tirer la démographie puisque les autres départements, Petite Couronne et Paris, vont soit stagner, soit perdre de la population. Donc on a un vrai enjeu d'aménagement et construction de logements. Et on sait que le logement, c'est le début du bien-être, puisqu'un logement de bonne qualité, bien isolé, avec des bonnes circulations d'air, ça change la vie. Pour avoir visité et pour avoir présidé une structure qui faisait la rénovation thermique pendant longtemps à la région, la qualité de vie après une rénovation thermique, elle est assez spectaculaire. Été comme hiver.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on oublie souvent. On parle aussi beaucoup de chauffage, mais l'été, quand vous avez un logement bien isolé, vous subissez moins la canicule.
Oui.
Donc tout ça fait partie de la politique de la région. On a mis, on a beaucoup accompagné les opérateurs de logements sociaux sur la rénovation thermique de leurs bâtiments. Et on est très exigeant sur les projets de logements sociaux qui sortent sur les critères environnementaux.
Oui, il y a la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui place les territoires au cœur de l'action climat, air, énergie. Et donc,
vous voyez dans notre belle ville d'Enghien-les-Bains, les bâtiments qui sont sortis de terre à l'angle de la rue de Gaulle et la rue du Départ sont assez remarquables en termes d'économie d'énergie, de performance énergétique.
Oui.
Avec et aussi de verdure, puisqu'il y a des parcelles de jardin. Vous avez ce qu'on n'avait pas connu avant, un garage à vélo qui est assez considérable, si je vous invite à le regarder, qui est déjà plein de vélos des habitants, puisque aussi c'est les modes de les mobilités douces qui sont aussi importantes.
Non, oui, dont il était question aux dernières élections municipales, je me souviens, c'était un enjeu fort de la municipalité. Merci infiniment, Monsieur Leroux. Merci infiniment, Monsieur Schkroon, pour
plaisir.
Vos témoignages et puis vos croisements d'expérience. Merci à vous.
Merci.
Merci.
IDFM, 98 FM.
Vous êtes bien sûr IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et nous poursuivons l'enregistrement de cette quatrième édition du salon professionnel de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Madame Corinne Postel. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente nationale de la CAPEB.
Voilà, c'est
et
ça.
Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, cela veut dire que, si j'ai bien compris, que vous êtes également chef d'entreprise, ou en tout cas, vous êtes
tout
dans
à
l'entreprise.
Fait. Je suis une élue, comme tous les élus d'ailleurs, il faut qu'on soit dans le monde, dans l'entreprise,
oui.
Chef d'entreprise ou conjoint. Moi, je suis conjointe collaboratrice d'un couvreur dans les Yvelines.
Très bien. Ah oui, dans les Yvelines également.
Voilà, pas très loin. Alors, et d'ailleurs, je suis dans le. C'est ma CAPEB. CAPEB Grande Couronne, c'est aussi ma CAPEB d'origine. Oui.
Et donc, vous êtes venu voir Jean-Luc Saussois, Ludovic Mirmont, Aurélie Ruellan, qui dirige la CAPEB du Val d'Oise. Que pouvez-vous nous dire de ce quatrième salon professionnel?
Écoutez, c'est toujours important que des CAPEB départementales réalisent ce genre d'événement. C'est important pour les artisans, c'est une reconnaissance, elle leur permet de se rencontrer, d'échanger entre eux, de rencontrer les partenaires qui sont ici présents, de rencontrer aussi des élus locaux, élus comme des parlementaires, députés. Ça permet de rappeler les grands messages, les grands combats qu'on mène aussi au niveau national, notamment sur les notions, les sujets de RGE, GME, MaPrimeRénov, MaPrimeAdapt, etc.
L'accessibilité. J'ai vu que vous avez été très...
On est très, très actifs sur le sujet. Et donc, ça permet aussi aux artisans de comprendre un peu les messages qu'on souhaite faire passer et qui sont, dans tous les cas, à viser de l'activité pour eux.
C'est ça, c'est probablement l'occasion pour vous de fidéliser vos adhérents et puis peut-être même d'attirer de nouveaux adhérents.
Parce que c'est un salon qui est ouvert à tout le monde. Donc effectivement, les personnes de la CAPEB sont là aussi pour leur proposer une adhésion, tous les services qu'offre la CAPEB et montrer une belle image de la CAPEB.
Bien
avec
sûr.
Une reconnaissance de leur métier et de leur activité.
Alors, je sais que c'est un salon qui a commencé par une première conférence, hein, dès 9h30 sur l'appli GME 3 clics,
oui.
Dont Jean-Luc Saussois nous avait présenté les prémices là, en janvier quand il était venu déjà dans l'émission. Vous voulez nous en dire un mot de cette appli ?
Alors, l'application par elle-même, en elle-même, non, mais sur le GME, effectivement, les groupements momentanés d'entreprises, nous faisons un gros travail auprès des parlementaires pour avoir une facilité d'accès à ces groupements d'entreprises, notamment côté juridique avec la non-solidarité entre les membres du GME. Il y a aussi un travail qui est fait il y a une PPL d'ailleurs qui est portée par Renaissance, qui sera débattue à l'Assemblée nationale le 18 juin prochain. Et donc, il y a aussi un sujet sur la concurrence, la sous-traitance en cascade.
Oui.
L'interdiction de la sous-traitance en cascade, plus exactement, et l'interdiction également de la sous-traitance des entreprises non RGE à des entreprises RGE. Et donc, c'est un sujet sur lequel on espère bien le soutien des députés.
C'est ça, vous pensez que cette appli va être efficace pour lutter contre toutes ces...
Alors, l'application sera un accès facilitateur au GME. Mmh. Et derrière, il y a tout ce lobbying que nous faisons pour le groupement. L'application, c'est vraiment l'entrée dans le GME.
C'est ça, oui.
Et
oui,
où il y a le travail derrière.
On
de
a
fond,
bien compris que c'était un facilitateur.
C'est un facilitateur,
Pour gagner
plus
des parts
simple,
de marché.
On essaie toujours de simplifier la vie des. Enfin, on est en demande de simplification pour les artisans, parce qu'on sait très bien qu'un artisan, il n'a pas dans son staff une secrétaire forcément qui va remplir des dossiers administratifs. Il n'aura pas le temps pour tout ça. Quoi. C'est lui qui fait en général. Donc, si on veut qu'il fasse, il faut que ce soit simple.
Oui, c'est ça. Souvent, on le dit. Hein. Moi, je le dis régulièrement dans mon émission. Les chefs d'entreprise, qu'ils soient artisans ou pas, ont la tête dans le sac.
Et exactement. C'est l'activité, la production, enfin le chiffre d'affaires.
Du chiffre d'affaires, de la marge.
Et malheureusement, ils n'ont pas forcément le temps. Ou alors, quand ils rentrent le soir, mais c'est après la journée de travail, c'est difficile.
Merci beaucoup,
je vous en
Madame
prie.
La vice-présidente Corinne
merci.
Postel. Merci à vous.
Merci.
Mon amour. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas. Toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas?
Nous sommes toujours sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et ce matin, toujours en direct à Saint-Ouen-le-Maune, sur le site de la CAPEB pour leur quatrième édition du salon de leur salon professionnel qui traite de la transition énergétique, du développement durable, de l'accessibilité. Et à notre micro, tout de suite, nous accueillons Monsieur Alexandre Pueyo. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Donc vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise, délégué au logement, élu pilote, du SAR 95. Mais peut-être que je vous laisse mieux vous présenter, Monsieur Pueyo.
Merci. Donc oui, effectivement, je suis conseiller départemental donc, du Val d'Oise, chargé du logement. Et donc, je suis le pilote du SAR, alors que nous avons renommé dans le Val d'Oise Val d'Oise Rénov, qui est donc un dispositif qui permet à tous les propriétaires et tous les copropriétaires de maisons ou d'appartements dans le Val d'Oise d'être accompagnés de façon neutre et gratuite si vous avez des projets de rénovation énergétique de votre logement.
Très bien.
Que vous soyez occupant ou propriétaire bailleur.
Très bien. Et donc, quelles sont les démarches à faire pour accéder à ce dispositif ?
Alors, un numéro unique que vous trouvez très facilement partout sur les réseaux sociaux ou Internet, Val d'Oise Rénov. Oui. Et donc là, vous allez être accompagné dans un premier temps si vous avez des questions, simplement, qui peuvent être des questions juridiques, des questions sur les aides de l'État, des questions techniques. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même être accompagné dans le choix de vos entreprises et dans le cadre de vos travaux par quelqu'un qui va venir chez vous pour vérifier que tout se passe bien. Donc vraiment vous accompagner de la prise de décision jusqu'à la réception des travaux et avec évidemment un accompagnement administratif pour vous assurer d'obtenir les bonnes subventions et les bonnes aides. Donc pas de promesses en l'air, vous aurez exactement ce que vous pourrez obtenir et on vous aidera à les obtenir avec la société que vous aurez choisie.
Donc, vous dites un seul numéro, ma prime Rénov, et certain de recevoir un expert qui pourra bien nous accompagner.
Au début, donc, comme je l'ai dit, soit quelqu'un qui est vraiment juriste, qui va vous aider donc à mettre en place votre dossier, puis après quelqu'un de plus technique pour suivre les travaux et puis que vous fassiez les meilleurs choix de rénovation énergétique, le toit, votre système de chauffage, changer vos fenêtres, des revêtements. Voilà, il y a plein de questions différentes qui se posent sur la rénovation énergétique des logements. Vous pouvez faire un seul geste, comme on dit, peut-être que les fenêtres, ou plusieurs, les fenêtres et le toit, les fenêtres et votre système de chauffage. Et puis aujourd'hui, vous avez quelques obligations aussi, comme par exemple le fioul, qui va être interdit très rapidement. Donc il faut aujourd'hui, tous les Valdoisiens encore chauffés au fioul, il faut qu'ils se renseignent dès maintenant pour trouver la solution la plus adéquate à leur modification de système de chauffage, qui va être économique, parce que le fioul est devenu très cher.
Bien sûr.
Et puis aussi pour l'environnement, parce que évidemment vous êtes sur du chauffage qui est extrêmement énergivore et qui dépense énormément de CO2. Donc aujourd'hui, il y a des technologies beaucoup plus efficaces.
L'objectif étant de diminuer très fortement nos émissions de CO2, sachant que la France est l'un des tout premiers pays à avoir inscrit l'objectif de neutralité carbone dans sa législation.
Tout à fait. On voit alors moi, je ne parle pas de réchauffement climatique, on parle plus de changement climatique parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va finalement. On voit que ça bouge.
On est un peu désarçonné.
Pas forcément
là,
pour des bonnes. D'abord, pas en bien, mais ça bouge. Et on a besoin d'avoir des logements plus sûrs au niveau de la technologie que vous allez utiliser, mieux isolés pour des questions de confort, ne serait-ce que pour ça. Aujourd'hui, il est quand même dommage qu'une famille dépense 1 1500 euros de chauffage pour désespérément avoir 17 dans les chambres.
Absolument.
Donc ça, c'est pas sain, c'est pas bon. Donc déjà en confort, c'est-à-dire que l'argent que vous dépensez, vous avez 19,
vous avez 20. Oui, on est perdant.
Voilà. Et puis évidemment, isoler la maison pour moins consommer et espérer faire des économies d'énergie sonnantes et trébuchantes.
Donc, un salon comme celui d'aujourd'hui vous paraît indispensable ?
C'est essentiel parce que ça permet justement à tous les professionnels du Val d'Oise, parce que je suis quand même conseiller départemental du Val d'Oise, et nous, on appelle les Valdoisiens plutôt à se tourner vers leurs entreprises locales.
Bien sûr.
Taper à la porte à côté de chez vous, d'abord parce qu'ils ont les compétences, parce qu'ils travaillent avec nous, avec le département, avec la préfecture, avec l'ANA, notamment, sur ces dossiers. Et puis parce que s'il y a un souci, bah, ils sont à portée de râlage. C'est notre économie, donc il faut aller les voir. Et ce genre de salon qui regroupe tous les professionnels d'adaptation du logement, parce que ça va être le grand changement, on va peut-être y venir, de Val d'Oise Rénov qui va se développer.
Oui.
Mais voilà, on regroupe ici tous les professionnels, parce que la personne qui pose des fenêtres n'est pas la personne qui va vous isoler votre toit.
Bien sûr.
C'est des métiers différents. Il faut des gens le plus compétents possible. Et de les regrouper ici, Val d'Oisiens, c'est extrêmement important pour créer un tissu économique, dynamique, compétent, et qui répondent à toutes les demandes des Valdoisiens, quelles qu'elles soient, que vous soyez en appartement neuf, en maison très ancienne, en lotissement des années 80. Il faut pouvoir répondre à tous les types de logements, puis que vous soyez propriétaire où vous vivez, ou que, par exemple, vous avez un locataire. Évidemment, ce n'est pas la même chose.
Bien sûr.
Que c'est pas les mêmes droits, puis c'est pas tout à fait les mêmes... les travaux en site occupé sont toujours un peu plus compliqués. Donc voilà, il faut que tout le monde soit bien adapté au niveau du droit, au niveau des aides et au niveau technique.
Complètement.
Ici, c'est plutôt un salon quand même technique.
Technique, oui. Et monsieur Thierry Laureau, hein, président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, a bien insisté sur l'importance de choisir des bons artisans.
Exactement.
Et pour être satisfait des travaux qui vont être
Donc il y a différents. Évidemment, s'ils sont membres de la CAPEB ou de la FFB, c'est très bien. Il faut qu'ils soient RGE.
Absolument.
C'est extrêmement important.
Oui, oui.
Et voilà, si vous êtes accompagné par Val d'Oise Rénov, on vous fera pas choisir l'entreprise la meilleure.
Oui.
On vous enlèvera
c'est
celle qui
ne... C'est juste un conseil sur les travaux qui vont être...
Les devis
qui vont
trop bas,
être
les devis trop hauts, les devis mal faits, tout ça, c'est pas une bonne chose. Donc, on vous dit pas vers qui aller, mais on vous conseille de ne pas aller vers certaines entreprises qui, de toute évidence, ne sont pas dans une bonne dynamique avec vous et soit manque de compétences ou quelquefois d'honnêteté, il faut le dire. Malheureusement, qu'il y a beaucoup d'entreprises...
Oui.
Pas beaucoup, non.
Malhonnête,
il y a des entreprises qui, quelquefois, commencent les travaux et les finissent pas.
Oui.
Voilà. Et on va essayer de développer Val d'Oise Rénov très fortement, vu qu'à partir de l'année prochaine, nous allons aider les Valdoisiens aussi sur tout ce qui va être l'adaptation du logement au sens large. Et donc avec notamment MaPrimeAdapt, donc pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Donc ils auront ce même système de guichet unique, un seul numéro, Val d'Oise Rénov, où vous pourrez rénover votre logement, l'adapter si vous êtes une personne âgée ou une personne handicapée. Et même système. On répond à vos questions, toutes vos questions au début, juridiques, pratiques, sur le meilleur choix à faire. Et ensuite, vous pourrez être accompagné sur l'intégralité de vos travaux. Par exemple, adapter une rampe devant chez vous alors que vous avez des marches, adapter un lit, adapter un escalier. On sait bien, poser un monte-escalier, le mieux possible.
Âgées ou handicapées.
Voilà, pour les personnes âgées handicapées. Les douches, évidemment, les salles de bain. Enfin, voilà. Et vraiment, vous accompagner sur, d'abord, qu'est-ce que vous faites au meilleur choix.
C'est ça. Oui,
voilà.
Oui. Toujours avec une idée de performance au niveau de la qualité.
Tous les gens qui y vont, ils dépensent quand même de l'argent. Hein.
C'est bien connu.
C'est souvent
oui.
des sommes quand même qui représentent quelque chose. Donc, il ne faut pas deux ans après que des travaux d'adaptation...
Regretter.
Là, je vais plutôt prendre l'adaptation, étaient à moitié faits.
Oui.
Il faut absolument aller jusqu'au bout et que quelqu'un qui a 60 ans, à 65, il ne soit pas obligé de refaire des travaux. Ça, ce n'est pas possible. Ou à 70. Il faut faire des travaux une bonne fois pour toutes en y mettant les bonnes sommes et en ayant les bonnes aides de l'État.
Merci infiniment, monsieur Alexandre Pueyo, conseiller départemental du Val d'Oise, délégué au logement, élu pilote du SAR 95. Merci pour toute
votre expertise
également. On sent que vous y connaissez bien, que
Merci.
Vous êtes passionné. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.
BFM Radio, le média valdoisien.
Merci d'être resté avec nous dans l'économie en direct. Tout ce matin, vous revivez avec nous le direct du 6 juin de la 4e édition du Salon professionnel de la CAPEB sur leur site de Saint-Ouen-l'Aumône. Alors, nous égrenons les invités au fur et à mesure. Et maintenant, à notre micro, j'accueille Jean-Luc Saussois. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Donc, merci de nous recevoir pour cette nouvelle édition de votre salon professionnel.
Merci à vous.
Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous êtes gérant de la EURL Saussois, associé de COP Artibat, président CAPEB 95, donc la Confédération d'artisanat des petites entreprises du bâtiment, vice-président de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, vice-président U2P 95 et puis également élu de la Chambre des métiers de l'artisanat Île-de-France 95.
Tout à fait.
Voilà, à chaque fois c'est un titre assez long. Et puis nous avons également la visite de monsieur Guillaume Vuittet. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Donc, vous êtes député du Val-d'Oise, de la deuxième circonscription du Val-d'Oise, et donc rapporteur de la proposition de loi transition énergétique, d'où votre présence aujourd'hui. Mais j'ai entendu que vous étiez là tous les ans.
Ah oui,
à ce salon.
Je suis aussi le député de Saint-Ouen-l'Aumône.
Bien sûr,
donc,
évidemment.
Donc,
voilà.
C'est plus simple dans
vous
ce
êtes
cas-là pour être présent.
À double titre.
Voilà.
Alors, j'avais noté, vous nous aviez confié lors d'un passage à l'économie indirecte, que l'accès au logement décent était pour vous une véritable passion. Et votre présence, voilà, se justifie d'autant plus par ce thème de la transition énergétique.
Alors oui, parce que en fait, quand on parle de décence et logement, on parle des choses très différentes. Il y a ce qui garantit la santé, la sécurité des habitants. Et maintenant, depuis 2006, on a adjoint la notion de décence énergétique. Pour une raison simple, d'une part parce que très vite on voit que des logements, qu'ils soient des maisons, des appartements qui ne sont pas bien isolés, qui ne sont pas bien équipés en matière de dépenses d'énergie, ont souvent d'autres désordres. C'est que ce sont des logements indécents de manière générale. Et donc c'est utile, évidemment, de passer par là. Puis il y a, ce que je disais tout à l'heure en introduction auprès des visiteurs du salon, c'est qu'il y a trois choses qui sont en même temps. C'est qu'il y a l'intérêt pour la planète, parce qu'on va éviter de dépenser l'énergie n'importe comment. Et il y a l'intérêt pour le confort des usagers, parce qu'évidemment, c'est plus agréable d'avoir un logement qui soit correctement chauffé, qui a une consommation énergétique qui soit correcte, et ça coûte moins cher. Surtout dans des périodes comme celle-ci, où l'énergie coûte un bras, je ne sais pas si c'est la bonne comparaison, on se comprend bien. Et puis il y a un troisième niveau, c'est que ce grand effort de rénovation, en particulier thermique, que le gouvernement a engagé depuis maintenant plusieurs années, c'est aussi un outil de soutien à la transition économique d'un secteur qui est celui de l'artisanat, qui est celui du bâtiment. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai rédigé à la suite d'une loi sur les copropriétés dégradées, qui était une loi qui permettait d'avoir des outils pour mieux assurer la rénovation des copropriétés. Et avant la grande loi logement qui doit arriver dans pas très longtemps, j'ai voulu écrire une proposition de loi qui portait sur des éléments de simplification et de clarification sur le diagnostic de performance énergétique et sur la capacité qu'ont les artisans à répondre aux demandes de travaux que peuvent avoir les particuliers comme les copropriétés.
Alors, nous avons entendu tout à l'heure le discours de Madame, pendant l'inauguration, le discours de Madame Corinne Postel. On a compris qu'elle comptait fort sur vous, sur votre, sur le groupe Renaissance pour faire voter.
Je parle sous le contrôle de Jean-Luc, c'est en l'espèce. Évidemment, quand on fait passer une proposition de loi de cette nature, ce qu'on appelle les semaines réservées, les jours réservés à l'Assemblée, ce sont en effet les groupes politiques qui décident de quel texte ils font passer. Mon groupe a eu l'amabilité de retenir ma proposition, mais après on mène de très nombreuses auditions.
Oui.
Et évidemment on est inspiré par ce qu'on entend. J'ai reçu évidemment la CAPEB, 2-3 demandes qui me semblaient plutôt utiles, et j'espère bien qu'en effet les uns et les autres s'y retrouveront, parce que c'est aussi
c'est pour le bien de tout le monde. C'est sûr. Jean-Luc Saussois, la présence de Guillaume Vuittet est importante à vos côtés.
Oui, je remercie Monsieur le député d'être présent, évidemment. Ça fait suite à de nombreux échanges que nous avons eu depuis plusieurs années. Cette proposition de loi, de projet de loi, est importante pour nous, puisque effectivement c'est un combat que l'on mène, d'autant plus pour la sous-traitance, puisque on a une position très claire depuis plusieurs années sur un maxima de 2 échelons souhaités de sous-traitance, puisqu'on estime qu'au-dessus il y a forcément concurrence déloyale, voire non-déclaration sociale des employés. Et on peut se demander comment une entreprise peut gagner de l'argent en 6e ou 7e échelon, comme j'ai pu le connaître. Ça, c'est une première position qui est constante pour la CAPEB. Et puis ensuite, les groupements momentanés d'entreprises, donc qui nous paraît être une arme formidable pour les artisans, puisque aujourd'hui il faut qu'on puisse répondre à des offres globales, et donc c'est ce que l'on souhaite. La CAPEB nationale, avec son groupe de travail GME3CLIC, a développé cet outil qui permettra à des artisans de se mettre en connexion et de travailler ensemble pour répondre à des offres globales. Et ce que l'on souhaiterait dans cet axe, c'est de pouvoir accéder à un GME non solidaire, donc ce qui permettrait d'avoir moins de réticence,
de responsabilité,
et moins de réticence pour l'artisan à
se joindre à d'autres artisans. Guillaume Vuittet, oui.
Il y a plusieurs choses. D'une part, c'est vrai qu'il y a des soucis.
Oui.
Par la multiplication des sous-traitances, des rangs de sous-traitances. C'est pas une moindre responsabilité pour les entreprises, au contraire. C'est faire en sorte qu'à un moment donné, on sache qui fait quoi. Parce que quand on a des marchés
où
il y a 6, 7 rangs de sous-traitances, on sait pas du tout quel est l'artisan qui intervient, on sait pas s'il est qualifié ou pas, et de très nombreuses malfaçons sont là-dedans, sont ce fait, et on sait que, excusez-moi l'expression, il y a une sorte de course pour obtenir des aides, et que parfois ce sont des margoulins qui interviennent et qui ne sont pas des vrais professionnels et qui nuisent à la réputation et à, non seulement évidemment c'est l'argent public qui est gâché, mais ça nuit à la réputation de toute une profession alors qu'elle ne le mérite pas. La plupart des artisans sont des gens de très grande qualité. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on appelle dans le temps le Small Business Act. C'est comment faire en sorte que des acteurs économiques compétents, mais qui ont une taille humaine, peut-être pas les grands groupes, puissent avoir accès à ce nombre de marchés. Et c'est le travail qu'on fait sur, en effet, le GME, le groupement d'entreprise, de façon à ce que soit plusieurs plombiers puissent répondre à un marché qui est un gros marché de plomberie, soit le plombier, l'électricien et tous les autres corps de métier nécessaires puissent être puissent se regrouper pour répondre à une demande d'un particulier ou d'une copropriété sans avoir forcément besoin de passer par une entreprise sous corps d'État. Tout ça, ça permet aussi d'avoir des gens qui payent moins cher à la fin, il n'y a pas de secret.
C'est reconnu.
Dès qu'il y a un intervenir supplémentaire, il y a des sous qui partent, c'est logique. Et vous parliez le terme de responsabilité. Le fait qu'on veuille que ce ne soit pas solidaire, c'est pas une question de déresponsabiliser les artisans.
Non, c'était pas dans ce sens. Je pensais plus comme une sorte de caution, c'est-à-dire
on peut pas demander à un plombier de savoir dire il y a l'électricien qui s'en va. Alors j'ai rien contre les électriciens. S'il y en a un des partenaires qui s'en va ou qui se casse la figure, on va pas leur demander de compenser comme ça.
Voilà.
Et de toute façon,
c'était dans ce sens. Ça n'allait pas dans le sens responsable.
Mais puis je vais vous dire, je suis convaincu que si jamais on imposait aux uns aux autres d'être solidaires, là aussi, ça va se payer par une assurance qui sera plus chère.
Bien sûr.
Et derrière, c'est le particulier qui paye. Quand on est avec on est sur des marchés de moins de 100 000 euros, donc c'est des marchés qui sont à taille humaine. Souvent, ce sont des particuliers qui vont être là-dessus. Et on connaît les prestataires, on connaît les gens, on connaît les entreprises, on connaît ces artisans qui sont de chez soi.
Oui. Parce que... Pour dire les choses telles qu'elles sont, le but, c'est aussi de lutter contre les fraudes, hein, et puis toutes les dérives qui viennent polluer les travaux des petites entreprises.
Totalement.
Ça sera vrai, de toute façon, sur MaPrimeRénov' et sur MaPrimeAdapt', puisqu'il y aura des aides. Et comme je vous l'ai déjà dit, dès qu'il y a de l'argent public qui est mis sur la table, ça fait appel d'air. Oui. Et malheureusement, dans l'appel d'air, on a forcément des gens qui sont là que pour faire du fric, sans obtenir le résultat escompté par l'État. On va dans le bon sens.
Et est-ce que ça va, ce système mis en place va permettre justement de, ça va permettre aux artisans d'être reconnus en tant que tels et pour leur légitimité. Mais est-ce que ça va permettre aussi de lutter contre les faux artisans, si je puis dire?
On espère. Oui. La CAPEB nationale a un réseau de 70 000 entreprises.
Oui.
Donc 62 000 entreprises. On espère que la majorité de ces entreprises vont venir sur cet outil GME et GME 3 clics et pouvoir canaliser effectivement toutes nos compétences vers ces chantiers. C'est le but.
Ça va devenir incontournable. Donc lorsqu'un
pour nous, moi, ça l'est déjà. Oui. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cet outil informatique. Je pense que c'est incontournable pour l'artisanat. Mm-hmm. Pour l'artisanat et pour faire valoir ses compétences.
Voilà. Alors, Madame Corinne Postel, elle parlait aussi de simplification.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, au départ, une mise à niveau pour ces artisans, d'un point de vue... parce que c'est beaucoup de digitalisation?
Oui, mais c'est un outil qui a été pensé par les artisans. Je fais partie du groupe de travail national. Donc, ça a été développé par des artisans. Thierry Ravon, chef de file national, a chapeauté tout ça avec Ingrid Bigot Falcon. C'est un outil pensé par les artisans, pour les artisans. Donc, non, ça va être très facile d'accès. Très, très facile d'accès.
Monsieur Guy Vitet, oui.
Vous savez, moi, je suis comme tout le monde. J'ai des images bien ancrées dans la tête. Et en effet, il y a des fois où on se dit, non, ils n'y arriveront pas. Les artisans sont peut-être moins rompus que d'autres au maniement de ces outils. J'ai fait le tour du salon avec votre président régional. Je suis impressionné par les compétences qui s'y trouvent et les compétences digitales. Il y a des produits qui sont développés. Alors, pour le groupement d'entreprise, vous avez montré ça tout à l'heure et j'en suis bien heureux, mais c'est aussi des outils qui sont à la disposition des artisans, des formations qui leur permettent en continu d'avoir accès à des technologies de plus en plus précises. Et je pense que c'est la magie de l'artisanat, c'est que ça permet aussi de répondre de façon exacte, de façon pointue à la demande des clients. Peut-être pas de tous les clients, mais de la plupart d'entre eux, et de nous en particulier. Quand je dis nous, c'est nous en tant qu'individus, en tant que citoyens,
en tant que gens
qui vivent dans des communes.
Et qui avons besoin tous les jours de ces artisans, c'est sûr.
Et nous sommes partisans du circuit court, ce qui est quand même important aujourd'hui pour l'impact sur la planète.
Complètement, c'est une chaîne vertueuse, comme on dit. Merci, merci d'avoir réuni cet écosystème, Jean-Luc Sossois. Merci Guillaume Vitet d'être venu à notre micro. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès. Donc,
et merci à Monsieur le député une nouvelle fois. Merci.
Oui. Vous nous direz ce qu'il en est de cette loi.
Dans quel état je sors de ce débat qui va être. Vous savez, c'est. Les gens parlent des lobbies comme étant des choses terribles et affreuses, etc. Peut-être que quand j'ai des représentants de la CAPEB qui viennent, ou des syndicats professionnels, on peut considérer ça comme des lobbies.
Oui.
En réalité, à chaque fois, nous, on a besoin d'informations. D'informations contradictoires, de gens qui vont avoir des points de vue différents. Et on a besoin de ces informations-là. Et moi, j'ai eu les propositions de la CAPEB et d'autres fédérations qui sont un peu différentes. Et c'est bien normal, c'est comme ça. Moi, ça me permet aussi de me nourrir pour pouvoir faire avancer
bien
le texte.
Bien sûr, oui, absolument.
Et c'est comme ça aussi qu'on fabrique une loi qui soit au plus proche
des réalités. C'est votre rôle de député d'être sur le terrain et de capter tous les besoins. Merci à vous. Merci infiniment.
Merci, bonne journée.
Merci. Un peu de musique avec Grégoire et on continue pour nos échanges avec un autre invité institutionnel du Val d'Oise. À tout de suite.
Alola, je suis dans le bus, le 41 pour Vénus, celui qui va jusqu'à Mercure. J'ai pas pris la ligne 21, il y avait trop de monde sur la lune, il fallait descendre à l'azur. Et toi, où es-tu dans l'espace? Attends, je n'entends plus, je passe dans un tunnel d'astéroïdes. Avant le trou noir, que tu n'irais pas voir ce soir ta soeur et son mari pour rire. On pourrait se rejoindre. J'ai des rêves à te peindre. Retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal, d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles, pas loin du boulevard de l'État, à bord de mon vaisseau spatial. On se rappellera la mer. Toi et moi. On se baladera sur Neptune, ces deux planètes après Saturne. Il faudra suivre les comètes. On apercevra Uranus, aussi Pluton, le Terminus, là où la galaxie s'arrête. On n'ira pas sur Mars, car c'est là qu'habite la garce qui t'a volé ton ancien mec. Mais oublie tes nuits sans sommeil, de l'infini jusqu'au soleil, je t'apprendrai à vivre avec. Et tellement d'autres choses, l'envie en overdose. Retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal, d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles. Yeah.
l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous revivons avec vous le direct du 6 juin, toujours pour la quatrième édition du salon professionnel de la CAPEB sur leur site de Saint-Ouen-l'Aumône. Et nous avons à présent un invité qui connaît bien IDFM Radio, il s'agit de Michel Alexeyev, président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Val d'Oise, vice-président de la Chambre des métiers du Val d'Oise, vice-président de la Chambre des métiers Île-de-France. Je m'embrouille toujours quand je vous présente Michel.
Vrai.
Donc
c'est vrai,
Michel,
Jacqueline, bonjour.
vous êtes à présent à ce salon. Pour quelles raisons vous êtes là aujourd'hui?
D'abord, je suis tous les ans à ce salon parce que je trouve que une concentration d'abord d'adhérents de la CAPEB premièrement et deuxièmement, je veux dire des entreprises qui présentent leurs produits, c'est fondamental pour notre économie. Mmh. Et puis je dois dire qu'ils choisissent bien leur jour parce qu'à chaque fois qu'on vient, il fait beau.
C'est vrai,
il y a du soleil.
Vrai, on a du soleil, oui.
On est très content de se retrouver. C'est convivial, c'est adorable. On a de la bienveillance dans le regard et le sourire de tout le monde et ça fait du bien. Ça fait du bien.
Vrai,
ça fait du
vrai.
Bien de
Vous
passer un bon moment ensemble.
Mmh.
Voilà. Et donc, je crois que la CAPEB fait bien les choses. Et je les félicite d'ailleurs pour l'organisation de cette quatrième édition.
Oui.
Quatrième édition à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le cœur de nos activités, où on a rencontré un certain nombre d'acteurs économiques dans le territoire. Et puis des choses intéressantes, mm-hmm. des choses nouvelles, avec des entreprises qui se mettent dans l'énergie,
dans
le renouvelable, l'éco-construction... tout ce qu'on a besoin.
Oui.
En fait. Tout ce
le thème, c'est donc le GME, la transition énergétique, le développement durable, l'accessibilité, autant de messages qui vous parlent.
C'est un sujet primordial pour nos entreprises, d'autant plus qu'avec la crise énergétique, de pouvoir bénéficier d'informations sur les derniers équipements à la pointe pour mettre en œuvre l'éco-rénovation et l'éco-construction. C'est-à-dire, on parle de plus en plus de photovoltaïque, de récupération d'énergie, le gaz pour les véhicules, toutes les problématiques qui sont autour parce que, c'est pas bien ficelé tout ça, mais on va y arriver. On a grand espoir. L'éco-construction. Et d'ailleurs, le secteur du bâtiment représente 34% de nos entreprises artisanales aujourd'hui, soit un peu plus de 11 000 entreprises dans le Val d'Oise. C'est important. On est derrière, nous,
c'est
la
vrai,
CMA.
C'est vrai.
Voilà.
Je trouve que ce qui est important aussi, c'est de voir cette belle entente qu'il y a entre vous, la CAPEB, la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat, et la CAPEB, parce que certains pourraient se dire, tiens, ils sont en concurrence ou pas, mais pas du tout, vous êtes en parfaite
problèmes,
synergie.
Nos problèmes, dans le Val d'Oise, dans la région d'ailleurs, et ça se situe bien évidemment au niveau de la région, et je suis très content d'ailleurs de parler de ça, parce qu'on pourrait penser qu'à l'extérieur, on est des ennemis, certainement pas. On œuvre d'abord pour notre Val d'Oise avec la CCI et notre président Pierre Cuchely et moi-même au niveau du département avec la CMA Île-de-France Val d'Oise où on développe des synergies ensemble. D'ailleurs, je crois que vous avez vu, dernièrement, on a fait un restaurant cadeau pour relancer les activités de nos restaurants.
Oui.
Donc, pour nous, c'est pas un problème de concurrence, premièrement. Deuxièmement, avec la CAPEB, alors, on va aller jusqu'au bout des choses, puisqu'on est les OP, Fédération Française de Bâtiments, la CAPEB, donc l'U2P, et puis nos organisations politiques, qui sont Fiers des artisans et Voix des artisans. Jacqueline, et je le dis à tous, je veux dire, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, on est là... Évidemment, je veux dire, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. On est tous autour de la table pour discuter de toutes ces problématiques et de ces difficultés. Mais par contre, pour nous, ce qui est fondamental, en tout cas, en ce qui me concerne et ce qui concerne notre équipe du Val d'Oise, et d'ailleurs les autres au niveau de l'Île-de-France, on est là pour les artisans, pour les 300 000 artisans de l'Île-de-France et 10% dans le Val d'Oise.
C'est
notre
sûr.
Plus jeune département de France.
Et c'est vrai que tout ce que vous dites, Pierre Cuchely le martèle également. Hein, il dit que c'est la grande force du Val d'Oise, cette synergie donc, et cette complémentarité entre vous tous. Donc on comprend bien que vous puissiez être là ce matin.
Et nous agissons tous en complémentarité sur ces sujets, en
c'est
définitive.
Ça.
Vous voyez, Vous avez bien remarqué que toute cette convivialité qu'on a, je veux dire, entre élus, le département, la région, la CCI, enfin bon, la CMA, tout ça. Non, le principal, c'est vraiment d'avancer.
Absolument.
Quelles que soient nos idées politiques, je crois que là, ce jour, eh bien, on est tous conscients qu'il faut qu'on avance. Et particulièrement en ce qui concerne la CMA, avec nos projets d'ouverture de CFA, j'espère très prochainement dans le Val d'Oise, pour pouvoir faire perdurer l'apprentissage, qui est fondamental, et énormément de métiers en tension.
C'est vraiment l'avenir de vos métiers. Mais
évidemment.
Complètement.
Vous savez,
complètement.
Aujourd'hui, on a des métiers. Alors, il y a des artisans qui commencent à rentrer dans l'âge. Il nous faut des professionnels demain qui reprennent ces entreprises. Donc comment on fait ?
Si on a
tous mais on a tous appris. Ouais. Peut-être un jour on est allé à l'école pour apprendre l'anglais, les mathématiques. Eh bien demain on va dans les CFA pour apprendre le métier de coiffure, boulangerie, l'esthétique, le NDRC, c'est-à-dire le commercial parce qu'il faut apprendre à vendre. Et puis les maçons, les toitures, la plomberie, l'électricité. Enfin c'est fondamental. Les boulangers, on les tous les jours. Tous les jours on a besoin d'artisans. Alors, vive l'artisanat, vive l'apprentissage, et je compte sur vous, Jacqueline, pour inviter à votre micro des gens qui défendent l'apprentissage, et je vous assure que moi,
vous pouvez compter
j'ai
sur
la tête
nous.
Dans le guidon
vous
tous les jours avec
nous.
Ça. Merci, Jacqueline.
Merci
à tous.
Merci à vous, Michel.
Vous avez un grand sourire,
Seyev.
Et je vous embrasse très fort.
Nous aussi. Merci, Michel.
Au revoir.
Merci. On poursuit cette émission en direct du salon professionnel de la CAPEB à Saint-Ouen-l'Aumône, avant de découvrir quelques-uns des 23 exposants. On écoute Elisa Tovatti, Il nous faut, sur IDFM Radio.
Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit.
I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care? Is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we dare, we will succeed.
Aussi un jean usé que l'on partage, deux trois secrets d'enfant passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien autour, non rien.
You and I close together, a new dimension, still far from being complete. You and I close together. Nous manque si peu de choses.
Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Nous serons ce que l'on ose.
You and I, close together, new dimension. But if we dare, we will succeed. C'est tellement déjà.
C'était Elisa Tovatti. L'économie en direct jusqu'à 11h, comme tous les mardis et vendredis, l'émission qui fait rayonner les forces vives de notre département. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct de la 4e édition du Salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne, Île-de-France. Place maintenant aux exposants qui étaient présents à cette journée dédiée à la transition énergétique, au développement durable, à l'accessibilité et à la gestion et vie de l'entreprise.
Christian Lelièvre, donc de la PF France Handicap des Yvelines. Donc nous, on est sur ce salon de l'artisanat ici parce qu'on a besoin de rencontrer les entreprises pour leur parler au-delà des normes de ce que sont nos besoins quand on est en situation de handicap. Ne perdons pas de vue qu'il y a un énorme besoin donc d'aménagement des logements pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient en fauteuil roulant ou pas, et en fonction des troubles de la personne, en sachant et en n'ignorant pas que un sixième de la population française peut présenter un handicap et donc avoir des besoins particuliers. Et les entreprises artisanales, pour moi, sont notre meilleur atout pour la réussite de nos projets. Alors sensibiliser, c'est un mot, je dirais même pas celui-là. Moi, je pense qu'avec les entreprises artisanales, on a besoin, nous, les associations, d'être partenaires, en fait. Voilà, d'apporter notre expertise, de partager notre expertise avec les gens qui vont nous apporter des solutions pour pouvoir réussir les projets, on va dire, pour amener les projets au mieux et pour répondre au mieux, encore une fois, à des attentes de la personne. APF France Handicap, donc, c'est une association nationale qui a un rayonnement important. Et nous recrutons à la fois des adhérents et aussi des acteurs parce qu'on a besoin d'être... non pas que des adhérents consommateurs, mais vraiment des acteurs pour faire, pour partager, pour faire évoluer l'accessibilité, autant dans le logement, dans les lieux publics et sur la voirie, par exemple, où on a encore, malgré la fin des agendas d'accessibilité, on a un énorme besoin, on va dire, d'acteurs pour accompagner tous ces projets-là. Voilà.
Bonjour, je suis Stéphanie Drouet, donc je suis conseillère artisan au sein du groupe ProBTP sur les Yvelines et sur le 95 depuis 2 ans. Donc je suis experte en protection sociale, donc ça représente tout ce qui est la mutuelle des artisans, la maladie, le décès, l'invalidité. On est aussi là pour les accompagner pour toutes les questions du quotidien par rapport à l'activité et les accompagner en ce sens. Le groupe ProBTP a été créé par le bâtiment. Donc on est vraiment un spécialiste de la protection sociale. On a déjà été présent à certains événements de la CAPEB. On est depuis de nombreuses années sur les différents événements qui se passent en Île-de-France.
Bonjour, donc je représente la société Actor Consulting. Nous sommes spécialistes des logiciels EBP. Donc nous sommes particulièrement spécialisés dans les logiciels de bâtiment, puisque nous sommes centre expert bâtiment EBP. Donc nous sommes ici pour présenter la gamme des logiciels EBP auprès des artisans qui sont adhérents de la CAPEB. D'ailleurs, à ce titre, ils ont le droit à une réduction assez importante sur l'achat de leur logiciel via la CAPEB. C'est intéressant. Et donc nous intéressons pour la vente, bien sûr l'assistance, la formation, puisque nous avons aussi un centre de formation agréé Calliope, qui nous permet d'intervenir avec les OPCO s'il faut aussi pour avoir les budgets de formation. Ces logiciels-là se préparent à l'avenir puisque d'ici quelques années, il va y avoir la venue de la facturation électronique et donc tout va passer en informatique. Donc il va falloir passer vraiment sur des logiciels performants comme EBP, la gamme EBP, qui sont déjà compatibles avec la facturation électronique, qui en ont accès à beaucoup de choses et qui vont certainement beaucoup plus faciliter la vie à nos futurs entrepreneurs et à nos dans le bâtiment n'importe quel domaine grâce à l'informatique qui va de plus en plus évoluer. On va gagner beaucoup de temps. Il va y avoir un passage un peu compliqué à passer, mais ça va être gagnant-gagnant, je pense, dans l'avenir. Vous pouvez nous appeler au 01 43 82 17 80. Donc ce sera avec plaisir, je vous répondrai à toutes vos questions. Ou bien à travers EBP qui pourra vous renseigner auprès des concessionnaires ou les revendeurs les plus proches. Que ce soit sur le Val d'Oise, il y a des partenaires sur tous les départements, et notamment, ou bien passer directement par moi, il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition.
Un site internet aussi.
Un site internet, www.actor-informatique.fr. Vous pourrez nous retrouver tout ce que nous faisons, toutes les gammes. Nous sommes disponibles sur toute la France en plus.
Super, bon salon.
Bonjour, merci, à vous et même. Merci.
Alors, je suis Eva Ozeri, responsable commerciale territoriale pour MAF Assurance, pour MAF Pro, sur le Val d'Oise. Et donc on est là aujourd'hui pour faire connaissance auprès des artisans du bâtiment du Val d'Oise, les accompagner pour leurs besoins en assurance. Et aussi aujourd'hui, on a eu l'honneur et le plaisir de signer une convention de partenariat avec la CAPEB pour unir nos forces afin d'informer, d'accompagner au mieux les artisans du bâtiment. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils n'oublient pas que l'artisanat aujourd'hui en France est le plus grand employeur français. On a besoin de leur savoir-faire, qui reste fort, soudé et qui continue à bien collaborer tous ensemble et à mieux servir leurs clients pour que le parc immobilier de la France soit le plus rénové possible et fournir, enfin en tant qu'assureur bien évidemment, fournir des prestations de qualité pour que monsieur et madame tout le monde aient un habitat des plus agréables, corrects et si besoin énergie, avec tout le renouvellement énergétique possible et accessible pour le handicap. Alors, MAF Assurance, bien évidemment, accessible sur maf.fr. Aussi, on a des agences MAF dans toute la France. Si vous avez besoin d'appeler, vous faites le 3015 ou vous pouvez trouver maf.fr sur Google et vous aurez un spécialiste entreprise qui se déplacera dans vos locaux professionnels ou à votre domicile pour vous proposer des solutions en assurance.
Merci.
Merci à vous, EDFM.
Donc, nous sommes la société créée. Une PME française basée en région lyonnaise et qui couvre le territoire national et qui depuis 50 ans propose des solutions d'aménagement des logements pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Donc dans le domaine du bâtiment, nous sommes actifs dans trois domaines. L'aménagement de la cuisine avec le réglage en hauteur de tous les éléments de cuisine, les plans de travail, les meubles hauts. L'aménagement des salles de bain avec également tout un tas de réglages en hauteur pour les lavabos, des baignoires, des sièges de douche réglables en hauteur. Et la domotique adaptée pour permettre à quiconque, y compris avec un handicap lourd, de contrôler son environnement électrique en bougeant la tête simplement. C'est-à-dire qu'on a un contacteur fixé vers la tempe ou sous le menton et on lance un défilement sur une télécommande. Et avec ça, on change la chaîne de télé, on ouvre la fenêtre, on baisse le store électrique ou on ouvre la porte et ainsi de suite. Voilà, et nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes partenaires du réseau Handibat depuis 2 ans, donc partenaires de la CAPEB également, et que notre volonté, c'est de pouvoir et partager avec les installateurs qui vont se spécialiser dans ce type d'installation, et à terme, nous espérons aussi pouvoir participer à leur formation, puisque nous avons 50 ans d'expertise unique dans ce domaine qui est notre seul domaine de prédilection. Une chose est sûre, c'est que ce marché est, à part les produits très basiques que sont les barres de relevage pour les douches ou les WC et autres, tous les produits à hauteur variable, aujourd'hui, ne sont pris en charge ni par la sécurité sociale et très mal par les départements, dans le cadre des maisons départementales du handicap. Ça va peut-être démarrer grâce à MaPrimeAdapt, mais ce dispositif ne s'adresse qu'aux personnes avec un très faible revenu. Et nous sommes en France très en retard par rapport aux pays scandinaves, par exemple. Donc ça reste un marché qui est encore embryonnaire, en France en tout cas. Et créer, par exemple, est une PME qui, malgré 50 ans d'exercice, n'a un chiffre d'affaires, entre guillemets, que de 5 millions d'euros.
D'accord. Et en termes de coûts, est-ce que c'est beaucoup plus cher, j'imagine, que des installations, on va dire, basiques ? Parce que ça demande des savoir-faire.
Alors, si on prend, par exemple, le domaine de la cuisine, ça l'a longtemps été. Et puis, ça commence à se démocratiser un petit peu. Donc, l'intérêt des cadres, en tout cas, que propose Créer, c'est que nous ne vendons pas le meuble de cuisine. Donc, l'usager peut très bien choisir d'aller chez IKEA ou d'aller chez un installateur qui va lui vendre du marbre ou de l'ébène. Donc on est libre de notre budget, de nos goûts, de nos choix de coloris, de matériaux. Et nous, Créer, on ne vient se mettre que derrière le meuble. On se fixe contre le mur et on fait monter le plan de travail ou le meuble haut électriquement ou mécaniquement. Quand le budget n'est pas assez conséquent pour la famille, on peut se suffire peut-être de la manivelle si on est physiquement capable au niveau musculaire des membres supérieurs de tourner la manivelle. Créer, c'est l'acronyme est un peu barbare, ça veut dire centre de réalisation en ergonomie et en ergothérapie. Il y a des ergothérapeutes chez nous qui sont également des conseillers de terrain, mais nous sommes effectivement uniquement une entreprise commerciale et nous vendons à des professionnels du bâtiment. Nous retrouver, il suffit d'aller sur le site www.crecr2e.fr.
Thierry, je suis le fondateur de la société EnviroPlus.
EnviroPlus donc est spécialisé dans les solutions de nettoyage avec une technologie que nous avons développée qui permet de supprimer les usages de l'eau pour toutes les opérations de nettoyage des outils d'application des métiers du second œuvre. Second œuvre, ce sont les peintres, les carreleurs, les plaquistes, les soliers, les façadiers.
Sans eau, ça semble impossible.
Alors, ça paraît impossible, effectivement, sur le papier et dans la version orale. Donc, en fait, on utilise un liquide spécial que nous avons développé, qui vient majoritairement du déchet de la céréale. Donc, nous sommes sur le coproduit végétal et pas sur la graine qui est la ressource alimentaire qui sert à nourrir les hommes et bien évidemment pas les machines. Donc, éthiquement parlant, ça a un petit peu de sens. Et ce liquide, en fait, est un liquide qu'on ne va jamais jeter. On va le contrôler, on va le recharger. On va sortir des polluants qu'on a nettoyés, évidemment, mais le liquide, on ne va jamais le jeter. Donc toute la particularité, c'est ça. C'est-à-dire que, un, nous ne sommes pas raccordés sur le réseau d'eau. En n'étant pas raccordés sur le réseau d'eau, on ne générera pas d'effluents souillés dans les canalisations, évidemment. Et ce liquide, on va le régénérer progressivement, mais on ne va jamais le jeter. Donc on ne lave pas à sec, bien sûr, mais c'est un liquide spécial, tout simplement, qu'on ne jette pas.
Très bien, donc... Alors, c'est une machine, comment ça se fait ?
Alors, en fait, c'est un concept qui est décliné selon les métiers. Donc là, la station que vous voyez, c'est une station pour les peintres, en l'occurrence, pour les peintres, pour les plaquistes, et qui permet, en fait, de pouvoir nettoyer rapidement, facilement, simplement, les outils d'application.
Ça prend pas énormément de place ?
Alors, on a une gamme de stations. Là, on est sur un gros modèle. À côté, vous avez sa petite sœur, donc qui est une machine qui fait 60 cm par 40 cm, qui est sur roulette, donc très compacte, et qui peut fonctionner sur un allume-cigare dans une camionnette.
Donc, déjà sur le marché ?
Alors, déjà sur le marché, puisque notre histoire avec les peintres, elle a commencé il y a 15 ans quand même. Donc, notre force aujourd'hui, c'est l'expérience et l'expertise que nous avons à travers cette histoire qui s'écrit, notamment sur les solutions de nettoyage. Donc, on parlait de nettoyage d'outils, bien évidemment, déjà depuis des années. Mais le phénomène, en fait, s'est accéléré avec le stress hydrique. Donc, le problème avec la quantité d'eau accessible. Également, l'approche eau potable, puisque dans 100% des cas, c'est de l'eau potable qui est utilisée, qui est consommée et qui est polluée. Malheureusement, la réglementation a fait qu'en 2010, on est passé sur des résines qui, auparavant, étaient en phase solvantée et qui sont en phase aqueuse aujourd'hui. Et volontairement, je ne dis pas à l'eau, pour ne pas employer le terme de peinture à l'eau, parce que dans les peintures aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. La peinture à l'eau, c'est la gouache ou l'aquarelle que nous avions lorsque nous étions enfants à l'école, ou dans les arts graphiques en tout cas, mais en aucun cas, les produits aujourd'hui sont des produits à base d'eau. Ça se nettoie à l'eau, malheureusement, et ça se nettoie du coup dans le lavabo. Et dans le lavabo, c'est l'eau potable, donc on va consommer entre 30 et 50 litres d'eau pour laver un rouleau à peinture, un rouleau, et on va le polluer en fait avec des composés qui sont dans la peinture, qu'on appelle des micropolluants, et qui vont perturber le fonctionnement des stations d'épuration. Et donc ça viendra in fine impacter le petit cycle de l'eau, qui est le cycle de l'assainissement, avec le retour à la terre, puisque si les bouts de stations d'épuration sont trop chargés en métaux lourds, on ne pourra plus les épandre dans les champs pour le retour à la terre, mais les incinérer. Alors, Environ Plus créé en 2006, et on a démarré l'histoire des peintres en 2009, avec les gens de la CAPEB et notamment CAPEB Grande Couronne.
Combien de temps pour nettoyer un rouleau ?
Et ben en fait, pour laver un rouleau en peinture, donc quand on dit nettoyer, c'est pour nous, c'est pas le laver et le laisser comme ça, c'est le laver et l'essorer. C'est-à-dire qu'un rouleau qu'on va nettoyer, en moins d'une minute, il va être propre, essoré et non goûtant. Alors que sous le robinet, on est plutôt entre 5 et 12, 13 minutes selon le type de rouleau. Oui. Et 50 litres d'eau consommée.
Surtout. Et le temps de séchage ?
Alors, et après, il faudrait le temps de séchage. Donc, nous, notre rouleau, il est réutilisable immédiatement après nettoyage. Et c'est ce qu'on a vu là, en fait, avec un rouleau qui vient d'être nettoyé, qui est essoré, non goûtant et prêt à retravailler, y compris dans le cas d'un changement de couleur. Alors, enviroplus.eu, tout simplement. Nous sommes présents donc sur le territoire national, avec donc une unité de production, puisque la fabrication est française, la technologie est française. Et nous sommes présents donc sur tout le territoire pour diffuser donc nos solutions.
Le liquide qui est utilisé, il n'est pas toxique ?
Non.
Là,
alors,
on sent une odeur, mais...
On a une odeur qui est caractéristique, puisque le produit vient du déchet de la céréale. Okay. Mais en fait, on n'a pas d'écotoxicité en termes d'inhalation. Okay. En termes de pays, c'est simplement des gants et des lunettes.
Okay.
Mais c'est comme un savon, en fait. Okay. Donc, si on s'en met dans les yeux, ben, on va se rincer à l'eau. On mettra du sérum physiologique, mais on ne fait pas le 15 ou le 18.
Okay.
Eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.
Est-ce qu'on peut faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux?
Ah, mais carrément, si vous voulez.
Eh bien, let's go. Eh bien, on peut inviter nos auditeurs à aller regarder sur les réseaux pour voir comment on nettoie un rouleau en quelques minutes.
Eh bien, je vous fais une petite démo.
Voilà, cette émission est terminée et merci infiniment à chacun des intervenants à notre micro pour leur témoignage et leur croisement d'expérience. Encore un grand merci à la CAPEB pour son accueil. Félicitations pour ce salon professionnel, un bel outil de communication pour faire connaître la CAPEB et puis ses adhérents et tous ces dispositifs. Un seul mot d'ordre, vous l'aurez compris, en faveur de la CAPEB. Si vous êtes artisan dans le bâtiment. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute. Merci Sabrina pour la technique. Retrouvez cette émission en podcast sur le site de la radio idfm98.fr et selon la formule consacrée, si cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite pour une nouvelle émission. Belle journée et bon week-end.